master, made to rely on the musical box. With that you can collate and get a beatbox to try. For the time, respected, received and not rejected. Relinquished to perfection, once it's done, it can't eject it. Get straight to the crowd, permission is allowed to respond a certain bond for the music like a cloud. That's dark with thunder, so quickly get under. The tweet is made by me from the roaring boom blunder. Spread out wide for all those to play the theme. It's different from the rest, with high fidelity. So deep-rooted, I mean electrocuted.
Bonsoir à toutes. Et non, aujourd'hui, vous n'écoutez pas Brazero, mais Brazera.
Eh, hey, mais c'est quoi Brazera ?
Brazera, c'est la version non mixte de Brazero. Tout a commencé lors d'un week-end organisé à La Chapelle en mai 2017. L'idée du week-end, c'était de se rencontrer entre féministes, meufs, win, trans, PD, putes, pour partager, discuter, questionner entre collectifs et individus nos féminismes et nos luttes.
Du coup, cet hiver, c'est Brazero.
Non, c'est Brazera.
Sur les ondes de Canal Sud, avec des sons du week-end enregistrés dans une caravane transformée à l'occasion en radiomaton.
Bonsoir. Ce soir, c'est la dernière de Brazera.
Non ! Pitié ! Brazera ! Reviens !
Bon, ok, ok. Peut-être on reviendra. Mais ce soir, c'est la dernière de la saison 1. Alors, même si on ne veut pas spoiler, on va quand même un petit peu vous dire ce qui s'y passe. Dans cet épisode, encore et toujours féministe, au menu du Radiomaton, des personnes vont nous raconter comment elles le sont devenues.
Mais qui et quoi ?
Ben, féministe. D'autres nous raconteront des limites ou des contradictions qu'elles ont rencontrées dans ce milieu féministe. Ensuite, nous rencontrerons les collectifs Luciférine et les Restos des Femmes. Puis, nous entendrons un extrait de la conférence de Paulina Caro-Astorga, la gestion des réserves indiennes à la French Touch. Et enfin, même si Zeta n'a pas pu venir en vrai, nous avons réussi à récupérer un bout de son live dans l'émission No Girls in the Cypher, que vous retrouvez un jeudi sur deux sur Canal Sud. Voilà, bonne écoute et vivement la saison 2.
T'écoutes quoi comme radio, toi ?
Ah, moi j'écoute juste Brazera.
Je connais pas, c'est quoi ?
Just Brazera. Radio Maton. Radio Maton.
Radio Maton. Bienvenue. Ceci est un radiomaton.
Rentre dans la caravane, seul ou à plusieurs.
Tu peux t'installer à la table.
Autour de toi, tu verras des questions et vois si ça te fait kiffer d'y répondre.
Si oui, tu appuies sur le bouton et voilà, tu racontes ce que tu veux.
Chacune à son tour, tout en même temps, c'est free.
Quand c'est fini, tu appuies sur le bouton rouge.
Témoignages, anecdotes, coups de gueule, chansons, histoires en tout genre.
L'idée, c'est de se raconter nos luttes ordinaires ou extraordinaires. Le tout pour une émission diffusée sur Canal Sud. Choisis ton cadre.
La non-mixité ou la mixité, tu la racontes comment ?
Raconte une prise.
conscience sur le sexisme, féminisme, racisme, sur les questions de classe, de sexualité, de genre et tout autre rapport de domination.
Raconte un truc qui t'a saoulé, touché, posé question, donné de la force. Radio Maton.
Radio Maton. Radio.
Radio Maton.
Sans Maton.
Parlez, vous êtes enregistré.
Devenir féministe. Devenir féministe. Devenir féministe. Devenir féministe. Devenir féministe.
D'assumer le terme féministe.
La place de la féministe.
C'était pas forcément un gros mot.
La daronne de féminisme.
Non, mais je me suis jamais sentie femme.
La division des tâches ménagères, elle s'est pas divisée, on va dire.
Salut, Mala.
Ouais, salut.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs.
Il est 17h, nous sommes à la chapelle.
Le bip, bip, bip.
Bon, du coup, on s'est dit comment on est devenu féministe, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on dit? Qui veut commencer?
Moi, j'ai l'impression que c'est pas hyper sexy, mais je crois que c'est quand même de mes études qui m'ont permis d'assumer le terme féministe et mettre des mots sur des trucs que j'arrivais pas à mettre avant. Et du coup, parce que dans ma famille, c'était pas du tout bienvenu et jamais abordé ce genre de questions, quoi. Et du coup, quand tout d'un coup, j'ai appris rapports sociaux de sexe, le genre, c'est quoi, tous ces trucs de... Bah, bouge pas le micro, sinon...
Pardon, je voulais voir si ça marchait. Excuse-moi.
Le fait qu'on aborde ces questions-là en cours et dans le cadre de mes études, ça m'a permis ensuite, à titre individuel, d'assumer le terme féministe, en tout cas, genre, dans ma famille. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir à quel point, en fait... mes parents, ils étaient tellement anti-féministes. Enfin, à quel point, en fait, forcément, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de me revendiquer féministe parce que c'était trop trashos les réactions. Enfin, moi, je me souviens quand je disais, ouais, en fait, je crois que je suis féministe. Mon père, il me disait, ah bon, mais les féministes, franchement, c'est quand même des femmes qui sont pas très à l'aise avec leur féminité, hein. Truc comme ça, tu vois. Du coup, genre, j'ai eu d'autant plus besoin de le revendiquer, mais c'était plus des sortes de petites luttes individuelles au sein de ma famille parce que j'ai commencé à trouver les mots. Et à pouvoir mettre des mots sur des trucs que j'avais vécu dans ma vie, mais aussi grave au sein de ma famille. Et ça a été la première étape. Et après, la deuxième étape, ça a été plus un truc collectif, de genre faire partie de collectifs, ou en tout cas de groupes de copines, où on parlait de trucs féministes ensemble, et de se confronter plus à nos réalités, où tout d'un coup, bah, c'est un peu la deuxième étape de mon parcours, où je pense que j'ai grave avancé, et bien plus que les textes que j'ai pu lire dans mes études, quoi. Mais j'ai eu besoin de passer par là. D'abord. Voilà.
Intéressant.
Moi, je serais qu'il y a beaucoup de similaires où j'ai posé aussi ce terme de je me sens féministe à partir du moment où c'est dans le cadre des cours de sociaux où on était ensemble en partie, où j'ai réussi à me dire que c'était pas forcément un gros mot que d'être féministe. Et je crois que c'est aussi un truc un peu progressif. Toute la vie, j'étais toujours à vouloir m'identifier à des femmes qui savaient prendre la parole en public, qui étaient un peu grande gueule. En 2002, je voulais que ce soit Christiane Taubira qui soit élue comme présidente parce qu'elle était noire et que c'était une femme. Alors du coup, c'était un peu trop stylé pour que tout ça arrive. Et voilà. Et je pense que c'est aussi beaucoup ressenti... à travers des révoltes d'oppression que tu ressens dans la rue dans un premier temps. Et c'est ensuite en côtoyant des milieux plus féministes, en lisant davantage de choses, que je me suis rendu compte que les oppressions, j'étais capable de les pointer du doigt dans plein d'autres endroits, notamment dans le milieu médical, où je crois que depuis un an, c'est un truc qui me révolte de plus en plus, et que ça fait pas que depuis un an que je l'ai ressenti dans mes rendez-vous médicaux et tout, mais qu'en fait, dès 13 ans, je me rends compte qu'il y avait des trucs hyper trash qui se passaient et tout. Et que ça, par contre, ça m'aide vachement aujourd'hui pour exemplifier auprès de ma famille. Parce qu'il y a des moments où ils comprennent pas. Ça sert à quoi de te revendiquer féministe, de faire des trucs en non-mixité, et quand je leur raconte des trucs qui se sont passés de quand on est plus jeune, quand on va chez les médecins et tout, ou même mes parents, finalement, ils étaient assez démunis sur comment eux, ils devaient se positionner. Là, finalement, ça leur embouche un peu un point de bah ouais, ça a du sens en fait, les causes dans lesquelles tu traînes, compagnie quoi.
Devenir
Ouais, moi, je sais pas, quand je suis devenue féministe, je me rappelle trop d'un moment où je me suis dit que, en fait, ça y est, c'était bon, je voulais faire des études de genre et être féministe. Mais c'est un peu con. Mais genre, c'est quand j'étais en Amérique du Sud, alors qu'en vrai, le sexisme, je l'avais vécu grave en France, tu vois. Mais les mecs, en fait, voyager seul aussi, pas mal, ça te rend grave aussi plus vulnérable au regard des autres, surtout des hommes. Et du coup, genre, il y a cette espèce de harcèlement de rue, harcèlement de... Où genre, je me sentais genre, j'étais là, j'en peux plus, en fait. Et c'était trop fou parce que je me baladais au Mexique, dans un bled du Chiapas. Et il y avait partout des pochoirs de meufs qui écrivaient genre machete al machote, tu vois, en mode gros coup de machette dans la gueule des machistes. Et genre, il y avait plein de trucs comme ça. Et j'étais là, putain, mais hier d'avoir des meufs genre trop stylées qui font ça. Et j'étais là, genre, et avec des trucs de féminine. Des slogans féministes partout sur les murs et tout. Et je me suis dit, non, mais en fait, non, mais c'est ça, il faut genre prendre la lutte genre féministe à bras le corps. Et je m'étais dit aussi, bon. Là, c'est cool, t'es en Amérique du Sud, mais en fait, il y a plein de trucs à faire en France. Et je me suis dit, genre, mais grave, c'est aussi passé par mes études. Du coup, je me dis, ah, mais je vais faire mon master en études de genre, parce que j'ai cité sur le master que je voulais faire. Et du coup, après, ouais, j'avoue, c'est aussi beaucoup passé par le cadre universitaire, mais pas que. Et après, je pense que c'est aussi un milieu de socialisation où, du coup, ben, maintenant, j'ai l'impression de, comme je suis plus à la fac et tout, d'en apprendre beaucoup plus par des discussions et des ateliers et des trucs de simplification, enfin explication de texte entre nous, et voilà.
Ouais, mais clairement, en dehors des études, il y a eu, enfin, nous l'année dernière, on a eu des cours qui nous ont aiguillés, en tout cas pour moi, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres personnes qui dans la classe qui ont pu recevoir les mêmes cours, mais qui peut-être se les sont pas appropriés pareil, parce que moi j'ai eu l'impression d'avoir une chance de ouf que d'être avec les meufs pour débattre de ça, d'être passionnée de tous ces échanges en permanence, et que c'est vraiment ça qui a fait émerger des vrais ressentis de meufs féministes, quoi.
Mais moi je crois que c'est pas du tout passé par les mêmes choses que vous. Parce que en fait c'est plutôt genre pas mes études, mais genre quand dans le mouvement l'année dernière où du coup je suis arrivée, genre je vous ai toutes rencontrées d'un coup et qu'en fait vous étiez déjà trop féministes et machin, et j'ai l'impression qu'il y avait plein de trucs de bienveillance et de entre meufs, surtout parce qu'en fait moi genre toute ma vie j'étais en mode anti-sororité totalement, genre la meuf qui aime pas les meufs, typiquement quoi, vraiment toute ma vie, toujours pas avec des mecs et clasher les meufs en permanence parce qu'elles sont trop chiantes et qu'elles sont trop girly et tout ça. Et bref, ouais, et du coup, ce truc de bienveillance et de parler de ce qu'on ressent et de parler de nos relations et de la communication, quoi. J'ai l'impression que ça venait quand même beaucoup de ce truc féministe. Et du coup, vu que c'était déjà là, en fait, j'ai l'impression que j'étais un peu obligée de rentrer dedans. Et vu que j'avais envie d'être copine avec vous tous, je me suis sentie happée par ce mouvement,
par cette pensée. Et du coup, voilà. Et après, je me suis mise à lire des textes. Et,
C'est beau, ça.
Devenir féministe.
Moi je sais plus exactement en fait, je crois que ça remonte à trop longtemps.
Voilà.
Et du coup, je sais plus exactement comment ça a commencé. Mais alors, je pense que j'étais déjà féministe au collège. Je me disais peut-être déjà féministe à ce moment-là. Au lycée, c'est sûr. Au lycée, j'avais lu deuxième sexe, j'avais fait mon TPE sur le féminisme.
Oh, voilà, la
ok, la daronne du féminisme.
Moi, c'est que depuis l'année dernière.
Ah, mais si, moi aussi, j'avais parlé de genre dans mon TPE.
Mais Gilles. Sa thèse. Doctorat. Non, je sais pas, après, genre, j'ai lu Quiconque théorie aussi au lycée, ça m'a pas mal marqué. Et après, par contre, j'ai rajouté un paquet de trucs au fur et à mesure, genre, de plus en plus, genre, radical, dans un truc plus politisé et tout, tu vois. À la base, c'était un peu le féminisme mainstream. Genre, féminisme qui demande
la parité à l'Assemblée nationale.
Ouais, genre, des oui. droits, des trucs. Et puis plus dans un truc finalement pas tellement dans un truc de ressenti propre, de genre en fait comment moi personnellement ça me touche, mais plus dans un truc général de genre moi j'ai toujours dit féministe, mais j'étais entourée de gens qui se disaient pas du tout voir c'est pas la place de la féministe trop lourde. Et du coup, de te retrouver avec des gens avec qui c'est possible d'en discuter, t'évolues vachement, tu changes vachement ta vision des choses et tout. C'est hyper important parce que sinon, tu t'avances pas trop. Quand même.
Moi, j'ai une question. En plus, on parlait de ça tout à l'heure.
Brazera.
Rencontre.
Alors du coup, Luciférine, c'est un projet de café associatif féministe et populaire sur Toulouse. Donc un café qui serait en mixité choisie sans mec cis, avec des moments qui s'adapteraient sur d'autres non-mixités en fonction des besoins. Ce serait un moment qui serait donc pérenne, puisqu'on souhaite louer un local et faire en sorte d'avoir une dynamique féministe ancrée sur la ville et durable.
L'objectif, du coup, c'est d'avoir un lieu qui soit un lieu de rencontre, d'échange. Moi, je trouve qu'il se passe plein de choses dans le sens où on est nombreuses. Et en fait, ça, c'est hyper cool et il y a plein de trucs. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait justement un lieu qui soit un peu à nous pour se rencontrer, faire des choses et être tranquille, où t'as pas besoin de demander à d'autres personnes, où tu galères pas avec les timings, les emplois du temps, etc. Et pour moi, enfin pour nous, j'ai l'impression là, pour le coup, c'était un truc important aussi d'avoir un lieu féministe qui soit dispo et que ça soit évident un peu quoi. Et aussi, on est pas mal axé sur les dynamiques de soins, du coup tout ce qui est divers ateliers autour du corps, du bien manger, du bien boire, du coup on serait sans alcool aussi. Des rencontres diverses, c'est du sport, de la bouffe. En fait, on a énormément de projets, mais ça va aussi dépendre du local qu'on trouve, parce qu'on n'a pas encore de local. Mais vraiment, c'est une idée centrale, ce truc du soin et du bien-être et de l'échange.
On aimerait que ce lieu il soit fréquenté par plein de meufs qui se sentent pas forcément en fait d'aller dans les bars, d'aller dans les lieux de sociabilisation. Parce qu'il y a des relous, parce que la peur du regard, parce que donc on est ouvert à toutes les diversités de meufs possibles. Et du coup, par exemple, des femmes qui veulent pas fréquenter des cafés par conviction religieuse ou parce que la peur d'être dévisagée, parce qu'on rentre pas dans les normes. Et donc du coup que cet espace il soit justement un espace bienveillant où tous les corps, toutes les histoires, toutes les diversités peuvent se rencontrer. Et c'est pour ça qu'on a choisi une non-mixité qui on l'espère en tout cas essaiera d'éviter les difficultés que peuvent avoir certaines meufs à fréquenter les lieux. Comme ça.
Ou certains mecs, du coup, pour les mecs trans et tout ça. Mais en gros, l'idée, c'était qu'on voulait faire une antithèse du PMU, quoi. Genre que le PMU, c'est le bar où les gens sont tout bourrés et il y a quasiment que des mecs chiants. Et nous, on voulait vraiment faire un espace un peu content où, en fait, voilà, tout le monde se sent à l'aise et on est ensemble et ça se passe bien. Il n'y a pas de vieille dynamique pourrie de drague, d'agression.
Parce qu'ils sont trop chiants.
Et la libertà non viene perché c'è cupolone, prefetto e cardinali, sbirri e militari. E la libertà non viene perché c'è l'oppressione, sentinelle e pellegrini, sono amici del padrone. Oli, oli, ola, il degrado la vincerà, sono arrivate le scandiste, face quel transfemministe. Oli, oli, ola, il degrado la vincerà. Sono arrivate le scambiste, face quel transfemministe.
On a environ 8, entre 8 et 10 là, à graviter autour de ce projet. On est monté sous forme associative. Et du coup, notre objectif, donc une fois le café ouvert, c'est vraiment d'avoir de faire payer le moins possible ce qu'on va faire à l'intérieur, tout en assurant la pérennité du lieu. d'avoir une espèce de transparence et puis un peu des bases d'autogestion.
Ouais, on voudrait vraiment s'autofinancer en fait, on veut pas demander de subventions et du coup là c'est pour ça on fait plein de soirées de soutien en amont pour être le plus à l'aise possible quand on va ouvrir et potentiellement s'il y a des travaux mais aussi pour avancer des loyers. Et voilà, on veut vraiment pas demander d'aide à l'extérieur parce que et c'est du taf au niveau administratif et c'est trop chiant et en plus après t'as des comptes à rendre et voilà, on veut pas rendre de compte. Ouais.
Je suis féministe, mais
quoi ?
Ben rien. Une prise de conscience.
Une prise de conscience.
Témoignage.
Un témoignage.
Témoignage, prise de conscience.
Prise de confiance.
Il faut qu'on appuie sur le bouton quand tu commences.
Ok, alors moi je vais raconter, c'est pas tant une anecdote, c'est plus un témoignage sur une des étapes de ma vie, on va dire. C'était une période où je vivais chez ma tante et mon oncle, parce que j'étais accueillie chez eux. Et donc mon tonton et ma tata, ils ont un fils et une fille qui ont 11 mois d'écart. Et donc quand j'ai emménagé chez eux, moi je devais avoir je pense 17 ans, un truc comme ça. Et eux, les petits, ils avaient je pense 11 et 12 ans à peu près. Bah, quand je suis allée chez eux, bah, j'ai dû un peu m'adapter à leur rythme de vie. Et une des caractéristiques du rythme de vie, c'est le sexisme ordinaire avec la division des tâches ménagères assez, assez pas divisée, on va dire. Par exemple, en gros, genre ma tante, bah elle bossait vachement, mon oncle aussi à cette époque-là. Mais ma tante, enfin 4 fois plus quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle devait gérer bah, toute la baraque, plus le boulot pour avoir de la thune, rentrer, s'occuper des gamins, patati patata. Je vous passe les détails. Et en gros, bah les trucs qui étaient assez choquants pour moi, c'était les temps de repas en fait. Le soir, ma tante, elle arrivait, elle disait alors, est-ce que t'as décongelé le poisson que je t'ai demandé de décongeler par SMS quand t'étais en cours? Et moi, j'étais là, oui, t'inquiète pas, je l'ai fait parce qu'il faut le faire. Et en fait, mon oncle, lui, il était toujours posé, genre en mode chill dans le jardin, à faire ses plantes, quoi. Cousin et ma cousine en train de se chamailler pour qui aura l'ordinateur pour regarder, je sais pas, des jeux ou qu'importe. Du coup, moi, je rentrais, je décongelais le poisson, ma tante, elle arrivait, elle me disait, bon, bah, allez, faut poser la table, bon, bah, Zach, toi, tu fais quoi? Allez, on pose la table. Alors, sa petite sœur, Yasmine, c'était tout de go. Faut poser la table, en fait, il faut la poser, du coup, on y allait. Et en général, on était toutes les trois à poser la table, on faisait à manger. Mon oncle et son fils, quand ils avaient envie, bah, en fait, ils se bougeaient, quoi. Mais c'était pas tant obligatoire, je trouve, pour eux. Et du coup, on posait la table, on mangeait, on discutait, on se racontait nos journées et tout. Et en général, à la fin, quand le repas était fini, ma tante, elle disait « Bon, bah, allez, on débarrasse !» avec un regard assez insistant vis-à-vis de moi et de ma cousine. Et nous, en fait, vu qu'on a un peu cette... on se sent responsable un peu pour faire tourner le foyer à l'image un peu de notre tante, enfin de ma tante qui fait tout, et pour, en fait, lui permettre d'avoir un peu des temps de répit, on se disait « Bon, bah, en fait, nous, on se bouge parce qu'elle se réveille à je sais pas quelle heure, elle se couche à je sais pas quelle heure, du coup, on le fait. » Sauf que moi, quand je suis arrivée, au début, bah, je m'adaptais au rythme en me disant, en fait, ma vie faisait que j'étais obligée d'habiter là-bas, du coup, j'allais pas commencer à foutre le bol, quoi. Et du coup, bah, je disais, allez, là, il faut le faire. Et de temps en temps, je disais, eh bah, pourquoi Zach, il le fait pas? Et mon oncle et Zach, ils étaient un peu du style, c'est le rôle de la femme. Au début, en rigolant. Moi, je trouvais ça un peu hardcore, mais j'allais pas le dire. Et même ma tante, en fait, elle trouvait ça hardcore. Et moi, ça me mettait vachement mal à l'aise parce que la seule personne qui en avait réellement conscience, c'était ma petite cousine qui, elle, avait 12 ans et qui essayait de se construire en tant qu'individu, qui essayait de faire des trucs et qui, en fin de compte, se rendait compte qu'il y avait vraiment on la considérait différemment de son frère et pas en bien. Et du coup, moi, ça m'énervait vachement parce que elle, du coup, elle s'énervait en fait. Elle se disait, bon, bah, je suis pas la seule à pouvoir gueuler parce que moi j'étais là et quelque part je l'accompagnais. Et au final, elle se faisait engueuler. Oh, non, mais Yasmine, t'as pas à dire ça. Alors qu'en fait, elle était dans son droit, quoi. Donc ça, c'était assez chaud. J'ai habité là-bas pendant 3 ans, et pendant 3 ans, ça a été comme ça. Et là, ça continue à être comme ça. Aujourd'hui, ma cousine, elle a déménagé carrément. Elle est allée faire ses études ailleurs parce que, bon, elle a trouvé son école ailleurs, mais je pense que aussi, quelque part, elle était contente de prendre son envol. Et juste une autre anecdote dans cette anecdote-là quand même qui était assez chouette, c'est que vu que j'ai habité là-bas, au début on partageait la chambre tous les trois avec mon cousin et ma cousine. Et du coup, mon tonton, il a dit, bon, bah, je vous fais une chambre dans le garage. Du coup, je devais la partager avec Yasmine. Et sauf qu'en fait, il prenait grave du temps. Il se rendait pas compte que c'était chaud de partager une chambre à trois. Et en fait, avec ma cousine Yasmine, vu que mon oncle prenait trop de temps, bah, on a fait une manif dans la maison en écrivant sur des papiers « On veut une chambre, on veut une chambre. Il y en a marre de vivre à trois. Dans je sais pas combien de mètres carrés, on veut une chambre, on veut une chambre. »
C'est un moment où t'as été en lutte. Hein. Ça commence là, la lutte.
Non, mais après, j'avais déjà des prises de conscience à côté. Mais ça, c'est vraiment, je trouve... en soi, à cette époque, je faisais des études de sociologie, le féminisme, je le lisais, etc. Ma vie elle-même, les histoires de famille et tout, c'était déjà teinté de féminisme. Mais là, vu que c'était avec ma cousine, ma petite cousine qui, elle, en fait, prenait conscience de ça, c'est, pour moi, c'est un moment qui est fort, quoi. Parce que je trouve qu'il est réellement incarné et c'est pas juste les trucs qu'on lit dans les livres. Et que moi, j'étais déjà passée par là et elle est passée par là. Et je pense que j'ai encore des petites cousines qui vont passer par là, quoi.
Ça.
Du coup, voilà. Voilà pour le petit témoignage.
Bien. Merci à toi. Super. Ça fait un plaisir de t'entendre. Voilà.
La gestion des réserves indiennes à la French Touch.
Une conférence gesticulée.
De Paulina Caro Astorga.
Le politique, c'est tout ce qui a trait à l'organisation de l'État, des élections, de la démocratie représentative. Ça, c'est le politique. Et la politique, c'est un terrain d'affrontement, de conflit et d'antagonisme. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que... Ça, vous avez donné la bonne réponse, hein, vous tous, là. En fait, le politique, c'est accaparer la politique pour en faire un métier avec des logiques de carrière et un business des plus lucratifs. Donc, en gros, nous, ce qu'on aime, la politique, on aime ça. Ce qu'on ne peut plus saquer, c'est le politique. C'est ça qu'on ne peut plus saquer. Et donc, pour revenir, pourquoi cette question, par rapport à la politique de la ville, à cette appellation qui est quand même particulière, puisque tout bord confondu, tout s'accorde à reconnaître l'aspect apolitique de la politique de la ville. Puisque ce n'est pas politique, c'est un problème urbain, circonscrit à la ville. Pas un problème social, pas un problème économique, pas un problème racial, pas un truc politique, quoi. C'est urbain. Alors que 84% de la population qui réside en France réside en ville. Ça tient pas deux secondes, leur truc. Et si on suit la logique, alors qu'on m'explique pourquoi renforcer l'émergence de grandes métropoles à coups de milliards pour que le pays soit feu à sang, c'est ça? Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, 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 ville, vive là-dedans, c'est coton. Les filles n'ont pas la vie douce, mais la rage pour exister. Dans les chambres, on est 12. Pour s'en sortir, faut se tirer. Les gosses jouent, mais les darons n'ont plus de travail à l'usine bidon. Ville. Ça coûte des milliards et tous s'accordent à dire que ça ne marche pas. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un État dépenserait des milliards, et ce, durant 30 ans, pour une politique qui n'atteint pas ses objectifs? Et la culture du résultat, bordel? Alors, hypothèse. L'objectif de la politique de la ville, c'est celui-là, l'objectif officiel. Réduire les inégalités en termes de pouvoir, savoir et avoir. Alors là, effectivement... On peut le reconnaître, non, ça marche pas. Non. On peut même dire que ça empire. Hein. Voilà. Et si, hypothèse, cet objectif servait à cacher un autre objectif, ou là, par contre, bingo, éviter, dépolitiser toute initiative autonome et organisée émanant des quartiers populaires. Alors là, ça marche. Ça valait bien quelques milliards. Hein. Et si l'objectif de tonton et touche-toi mon pote, ça avait été de dépolitiser les banlieues rouges, comme on les appelait à l'époque. Ah oui, là ça a bien marché. Dépolitiser, ok. Dépolitiser, mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on dépolitise? Eh bien, au début des années 80, va émerger la révolution conservatrice organisée par l'oligarchie mondiale qui, crise après crise, va s'évertuer à récupérer un à un tous ses privilèges, c'est-à-dire nos droits, et faire passer cet hold-up planétaire pour l'état naturel des choses. Donc, faute de vouloir combattre les inégalités, il va falloir alors les légitimer. Et comment ? En disqualifiant ceux et celles qui en subissent les effets. La double peine des dominés. Vous connaissez ? Et la sagesse populaire le sait bien. Qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Et sa version coloniale, qui veut déposséder un peuple l'accuse d'être sauvage.
Qui va faire le ménage, nous on fait de la radio sauvage. Qui va faire le ménage, nous on fait de la radio sauvage. Qui va faire le ménage, nous on fait de la radio sauvage.
Limite et contradiction.
Radio Maton.
Limite et contradiction.
Limite.
Limite.
Contradiction.
C'est limite.
Contradiction.
Limite et contradiction.
Les contradictions.
C'est vraiment limite.
Brasera.
Je voulais raconter une histoire, un moment, un truc qui m'a à la fois touchée, un peu saoulée et qui m'a posé question. J'étais dans une rencontre féministe et je m'étais inscrite à un atelier Femdoshi. Bon, déjà, c'était proposé par un collectif qui s'appelle Parole de Femmes. Ça déjà me posait un peu question parce que je me disais, bon, je crois que des personnes qui peuvent avoir besoin d'outils d'autodéfense féministe, c'est pas forcément des personnes qui se disent femmes. Ça peut être des personnes qui n'ont pas cette identité-là. Et du coup, je me disais, c'est peut-être un peu dommage, déjà. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà fait des sessions d'autodéfense. Et on s'est retrouvés à se présenter sans avoir à donner notre pronom parce que finalement, c'était une session de Femdoshi uniquement pour des personnes femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais en tout cas, on nous a précisé au téléphone que ça voulait dire que si on était une personne trans, c'était pas possible. Donc ça, en arrivant, tout de suite, des personnes l'ont soulevé en disant « c'est bizarre, ça nous pose beaucoup de questions et on aimerait bien pouvoir en parler avec vous ». Et ça nous a déjà posé question de venir pour ça, mais du coup, on vient quand même, mais on aimerait bien avoir une discussion là-dessus parce que ça nous va pas. Et la personne qui animait avait pas l'air, disait oui, bah on sait pas le lieu, mais si vous voulez en parler entre vous, disait ah bah non, on va en parler avec vous en fait. Bon, de fait, moi je suis partie avant d'avoir l'occasion d'en discuter avec elle, mais voilà. Après, on a fait un tour des prénoms sans forcément faire un tour des pronoms, et on nous posait des questions du genre qu'est-ce que tu viens chercher là? Est-ce que t'as des peurs? Est-ce que t'as des peurs que tu veux explorer là? Bon, c'était le premier contact avec le groupe, donc c'était un peu bizarre. Et après, il s'est passé un bon nombre de choses compliquées qui nous mettaient mal à l'aise, du genre... Bon, par exemple, il y a une étude faite par la gendarmerie et par la police. Bon, déjà, mal à l'aisant pour ma part. Qui a montré que sur 3 mois de trajet sur le même RER, il y a des femmes qui ont subi plusieurs agressions et des femmes qui n'en ont jamais subi. Ce qui nous amène à la conclusion de « il y a une posture ». Sous-entendu, il y a une posture de personne agressée et qu'il faut apprendre à déjà tenir une posture différente et c'est ça qu'on va vous apprendre. Moi, ça me posait quand même pas mal de questions sur le truc de la culpabilité, de finalement, quand tu te fais agresser, c'est peut-être aussi un peu de ta faute. Donc... On commençait déjà à faire des gros yeux, puis un bon nombre de remarques assez particulières. Il y a une manière de se défendre. Par exemple, une personne qui avait été au cinéma et un
homme s'était assis à côté d'elle, l'avait serré, s'était rapproché d'elle, avait touché sa cuisse, et puis elle n'avait pas réagi, puis réagi, puis finalement avait mis sa main sur sa cuisse, elle n'avait pas réagi, puis encore un petit peu, elle avait bougé, et là, elle lui avait foutu une claque, ce que nous, on trouvait hyper bien. Et en fait, la personne qui animait le groupe trouvait que c'était pas très cohérent. Qu'il aurait fallu réagir dès le début, et c'était ça qu'on allait apprendre. Et donc finalement, on se disait, quelle force il lui a fallu pour mettre une claque, c'est hyper bien. Quelle que soit la forme, c'est hyper bien. Et voilà. Donc on lui a dit qu'on n'était pas d'accord, et que c'était très bizarre ce qu'elle était en train de laisser entendre. C'est-à-dire, peut-être qu'en fait, si vous vous sentez de plus en plus agressé, que vous n'avez pas été capable de réagir tout de suite, alors que vous sentiez que la situation était malaisante et que ça dépassait vos limites, si vous réagissez plus tard, c'est pas bien, et qu'il fallait aller au bout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entendais, et j'en étais très choquée. Parce que je me disais, finalement, c'est quand même pas très facile dans la vie, à des moments, de sentir tout de suite qu'on est dans une situation qui ne nous va pas, et qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité, et qu'on a appris ça. Et voilà, et donc je me suis dit... à ce moment-là, c'est très bizarre de se retrouver dans un stage d'autodéfense, à être fâchée contre une personne qui est censée être une alliée féministe, comme ça, dans un moment qui est censé être dirigé pour me donner plus de force, et qu'à la fin, je me retrouve presque à me défendre contre la personne qui est censée m'apprendre à me défendre. Et en même temps, je me disais, mais comment je fais là, à ce moment-là, pour réagir, dire des choses alors que je me sens quand même dans un moment un peu vulnérable, que j'ai l'impression que la personne, elle a plein d'armes, plein d'outils, et qu'en même temps, c'est un peu une spécialiste, quoi. Et c'est tout. C'est ça que je voulais raconter, parce que je pense que c'est un moment, là, dernièrement, qui m'a beaucoup gênée, interrogée, et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai fait semblant d'aller faire pipi. Et je suis pas revenue. Et j'ai pas non plus été débriefée avec cette personne, parce que je me sentais pas capable, et qu'un groupe, finalement, a discuté entre eux, et on... entre elles, et on dit on lui dit tout ce qui avait été compliqué avec lesquels elles n'étaient pas d'accord, et moi je l'ai pas fait. Je me sentais légitime d'être partie, parce que je me disais, j'ai pas envie qu'on m'enlève de la force. En même temps, je m'en voulais, parce que je me disais, t'as pas été capable de le dire, et je me sentais coupable de critiquer quelqu'un qui était censé nous faire du bien, et je me disais, finalement, je lui donne plein de critiques dans le dos, et je lui ai pas dit en face, et je me sentais coupable, alors que finalement je me disais, c'est pas très juste de se sentir coupable, qu'en fait c'est elle qui m'a mise mal. Et voilà, c'est tout.
Différents, et du coup il y a plein d'espaces féministes dans lesquels on se retrouve pas, et tu vois, même encore sur l'organisation de ce week-end, on se rend compte qu'en essayant de faire des trucs, des fois on se plante, ou des fois on le fait mal, ou on est à côté de la plaque, et je trouve ça aussi chouette de pouvoir se remettre en question et de se dire, en fait, ouais, peut-être là c'était pas intelligent, c'était pas à propos, c'est déplacé, c'est... Je dis ça en rapport à un spectacle qui était programmé de propos de Chrysélidis. Et je sais pas, en fait, ça fait débat. Et du coup, moi, je trouve ça chouette aussi de se ressaisir de trucs comme ça pour se dire qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce que... Et du coup, ça fait aussi avancer...
la lutte.
Avancer, ouais, avancer la lutte. Et je trouve ça chouette, en fait, de réussir à quand même prendre ces espaces-là pour continuer à réfléchir, parce qu'en fait, on... Je sais pas, j'ai l'impression que ce sera tout le temps et...
Carrément.
Et qu'il y a... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des alliés dans le délire, quoi.
De quoi tu parles?
Pour continuer à réfléchir, en fait, de se dire, on n'a pas réponse à tout, on n'est pas machin, et du coup, de continuer à pouvoir réfléchir à plusieurs, quoi.
Carrément.
Celui qui a l'âme heureuse ne ressent pas le poids des années. Et mon petit quart de siècle me dit qu'en fait, je suis pas épargnée. J'ai prié que le temps s'arrête pour t'écouter crier ta chance. On est tout petit sur terre, donc je l'apprécie en faisant ma chanson. Puisque la route est longue, l'instant d'après, je regrette rien. Même la sueur laissée quand le poids des mots me fait du bien. C'est pas que du kiff, je travaille sans cesse, j'ai mes horaires comme un ouvrier. Et je cultive ce qu'on m'a donné pour pas l'oublier. Je chante pour figer le temps qui nous arrache à nos racines. Et je vois passer les étapes clés qu'on a jugées trop faciles. C'est le jeu de nos vies, on se fait la guerre pour un petit totem. Juste avec un coup de fil, t'apprends que tes proches sont pas immortels. Alors j'espère la suite, bâtis mes espoirs dans la poussière. J'irai les contretemps quand le mini-moi sera dans la poussette. Je sais que ceux qui se taisent disent plus de choses que ceux qui parlent. Comme parfois ceux qui restent nous aiment moins fort que ceux qui partent.
Y a le temps qui nous forge et celui qui nous blesse. Celui qui laisse des rides au coin des paupières de nos pères. Y a le temps mis sur pause et celui qui nous presse. Moi je cours après mes rêves ou ce qu'il nous reste.
Et parler d'un moment de prise de conscience qui concerne le racisme.
J'ai l'impression de vous conter une histoire.
Bon, j'ai toujours eu connaissance du racisme, hein, je débarque pas non plus, notamment parce que potentiellement je pouvais être concernée, parce que je le suis en vrai, mais ça a un sens ce que je dis, parce que en fait c'est quand est-ce que j'ai pris conscience que je pouvais être concernée par le racisme. Et plutôt, j'ai grandi avec des gens à qui j'ai pas pensé s'ils étaient racistes ou pas, parce que de toute façon, on grandissait ensemble et que, en fait, on était à peu près issus du même endroit. Ou en tout cas, majoritairement des gens racisés. Et du coup, je pense que j'ai eu prise de conscience de comment le racisme il pouvait me toucher quand j'ai rencontré des gens qui réfléchissaient au racisme. Et là, j'ai réalisé à quel point ils pouvaient être racistes. Et là, du coup, ça m'a fait un truc genre... Ah ouais, non, en fait, le racisme, peut-être que j'étais avec des gens qui le pensaient pas forcément. Et du coup, moi, je le pensais pas forcément parce que, bah, on était aussi dans... Moi, j'étais plus jeune et du coup, c'était un peu un quotidien où, en fait, tu partages des trucs et tu te poses pas la question. Et il y avait pas ce truc de genre, oui, nous, le racisme, on trouve que c'est mal. Bon, en fait, on n'a pas besoin de se le dire parce que bon, ça a pas grand intérêt. Et quand j'ai commencé un peu à arriver dans les milieux un peu militants, et que du coup bah, je me suis rendu compte que bon, il y en a qui quand même qui aiment beaucoup en parler, hein, du racisme, et que du coup je me suis dit bon bah y a, oui, en effet c'est sûr, y a plein de racisme, mais du fait que peut-être qu'aussi je renvoie pas toujours dans tous les milieux l'image de la beurette, et du coup des fois je passe, en tout cas au niveau de ma couleur de peau c'est pas flagrant, du coup bon, il y a ce truc, mais non, mais c'est vrai, en fait, ça change vraiment le truc de... Si j'avais été noire, peut-être qu'en fait, j'aurais eu une prise de conscience différente. Mais là, en fait, bon, il y a plein de gens qui m'ont considérée comme blanche. Et en fait, là, du coup, je me suis rendu compte comment, tu pouvais avoir un traitement différent. Et qu'en fait, c'est des blancs qui m'ont fait voir le racisme, quoi. Mais pas dans un truc positif, de genre, là, on va en discuter, ou... Mais plutôt dans un truc de... Ah ouais. Et c'est un peu marrant, parce que... Non, ça me fait pas rire. Mais c'est quand même un peu marrant parce qu'en fait, j'ai ce truc où en fait, moi, j'ai réalisé le racisme et où en fait, j'ai commencé à traîner dans des milieux militants où les gens, où en fait, l'antiracisme, c'est un truc un peu de base. Et où maintenant, en fait, quand je retourne dans des endroits qui sont là où j'ai grandi, les gens, ils me considèrent comme une sale blanche. Et du coup, il y a ce truc un peu où t'es un peu toujours dans ce truc de genre, en fait, là. La manière dont je parle, la manière dont, je sais pas, l'image que je renvoie, bah, en fait, j'ai l'air d'être une sale blanche, parce que du coup, c'est l'insulte que j'ai pu avoir. Et en même temps, en fait, quand t'es qu'avec des blancs, bah, là, t'es là, tu te dis, non, mais en fait, bah non, là, je pense que je suis vraiment l'arabe de service, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu une prise de conscience, quoi.
Ouais, un truc qui m'a saoulé. C'était donc la pièce de théâtre, c'est un mec et une meuf, donc ils ont 30 ans, c'est une fille et un garçon, bien sûr. Et ils veulent jouer à un jeu, et dans le jeu, c'est que tu prends un enfant. Et du coup, tu décides la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, un peu les traits de son caractère et tout ça. Et du coup, ils savent pas trop comment va marcher le jeu, mais en tout cas, à un moment, il y a une dame qui ramène du coup cet enfant qu'ils ont créé dans le jeu à leur porte, quoi. Et du coup, le truc, c'est, ils doivent gagner des points à aller jusqu'à 500, tu vois. Et donc c'est un truc qui se veut parler de l'héritage familial et machin, et qui se veut un peu antisexiste et antiraciste, mais qui est bourré de clichés. Genre la meuf, celle qui fait à manger, le mec qui fait pas bouffer, à un moment il y a leur jeu de quand ils étaient enfants, elle, elle a des Barbies et tout, lui il a des super-héros, des trucs comme ça. Tu vois, elle, quand le fils disparaît, elle est là, oh là là, et lui il est rassurant, machin, enfin c'est que ça. Et il y a quand même un truc où elle dit pleure ou je sais pas quoi, et lui il dit ah non, moi j'aimerais, je voudrais pas qu'il pleure, machin. Et elle dit ah mais t'es sexiste et tout, si c'était une fille tu dirais pas ça. Donc il y a le petit truc anti-sexiste, mais tout le reste c'est que bourré de clichés sexistes. Et il y a aussi le petit truc anti-raciste, mais tout le reste est bourré de clichés racistes. Parce qu'en fait la meuf elle s'appelle Leïla, et donc à un moment tu comprends, en fait elle a grandi dans une cité et tout, bah oui. Tu vois, là, quand tu dis ça, Leïla, tu vois, ouais, bah, oui, elle s'appelle Leïla, forcément.
T'as bien intégriste,
ouais, voilà. Et t'as tout le passé du mec, et elle, genre, son passé, il est un peu sombre, secret, hein. Tu vois. Du coup, elle en parle pas et tout, alors forcément, vu qu'elle est d'une famille kabyle et arabe, tu vois sûrement qu'il y a des trucs pas cool dans sa famille, donc on n'en parle pas. Mais à un moment, il y a quand même son fils qui se fait traiter de sale arabe, et du coup, il y a de la petite partie antiraciste. Oh, mais vraiment, des enfants racistes, mais ça commence tôt, et voilà. Et après, t'as tout le reste, bien de la meuf rebeu, machin, qui a grandi en cité. Et ça m'a saoulée, oh là là. Voilà. Et je me disais là que tous les gens, ils devaient être. Je sais pas, c'est ce que les gens ils en pensaient, mais tu t'imagines qu'ils sont sur leur famille.
Oui, c'est ça.
Ah oui, c'est très
c'était,
bien.
C'était parfait. Ah, c'était parfait, j'ai adoré. Heureusement qu'ils
ont pas oublié. C'est un spectacle antiraciste et antisexiste, hein, vraiment. Oui, vraiment hein,
ah, c'était trop énervant.
Entre l'homme et la bête, y a le pouvoir d'espérer, moi. Je veux pas regarder le fond du puits pour y trouver mes étoiles. On est jeune tant qu'on souhaite que chaque jour soit différent. Pour se choisir soi-même, au lieu d'accepter prendre ce qu'on choisit les gens. C'est la course aux victoires, les mêmes que toutes celles qui t'ont blessé. On passe nos vies à vouloir trouver ce qu'on est, et c'est clair. On est des enfants perdus si nos rivages flanchent. Les rites sont des sourires gravés sur nos visages d'anges. Les mains dans les souvenirs, la tête dans les nuages. On est toujours en vie, mais on croirait qu'on n'est plus là. C'est là, régler l'évidence de nos chemins teintés d'or pâle. Parce que le temps parle même quand on l'interroge pas. Les mains dans les souvenirs, la tête dans les nuages. On est toujours en vie, mais on croirait qu'on n'est plus là. C'est là, régler l'évidence de nos chemins teintés d'or pâle. Parce que le temps parle même quand on l'interroge pas.
Qui nous forge, et celui qui nous blesse, celui qui laisse des rides au coin des paupières de nos pères. Y a le temps mis sur pause, et celui qui nous presse. Moi je cours après mes rêves ou ce qu'il nous reste, qu'il nous reste. Y a le temps qui nous forge, et celui qui nous blesse, celui qui laisse des rides au coin des paupières de nos pères. Y a le temps mis sur pause, et celui qui nous presse. Moi je cours après mes rêves ou ce qu'il nous reste, ce qu'il nous reste.
Brazera.
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 Rencontre.
Alors, on va entendre deux personnes du collectif du Restaurant des Femmes, composé par des meufs en galère de papier et de thunes, qui s'organisent pour s'en sortir.
Bonsoir tout le monde. Je me représente.
Me mueve la aire.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
A mí.
Se te va a pasar la ro.
J'arrive en Bosnie. Je suis à la France en 2006.
Je viens du Maroc. Je suis Sainte-Casey. Depuis 2012, je suis à Toulouse. Je suis mariée, deux enfants.
Moi, je cherche du travail, je suis séparée, je suis toute seule avec deux enfants. Et je vois faire du couscous, de tagine. Et c'est bon, tout le monde est content. Un peu de travail, mais c'est pas grave. Beaucoup de légumes, de la viande. Nous cinq femmes.
On reprend des femmes qui n'ont pas rien, qui ne prennent pas argent, qui ont besoin pour les lusophones. Après, c'est un ami qui a connu moi, parce que comme moi, je suis habitée à la squat avec ma lusophone. J'ai fait beaucoup, 25 personnes, je fais manger à la squat. Et après, c'est, on dirait, copain, on dirait un ami, comme ma famille, a très présenté moi. Et les messieurs va intéresser pour moi d'arriver chez nous à 67. Et à chercher moi, je parlais avec elle et demandé moi pour tout faire Mirvetta une fois manger à chapelle. Parce que j'attendais comme toi pas argent, comme tu n'as rien du tout, comme tu habites ici à la squat, que tu as beaucoup une année à la France. Et moi je parlais oui, je m'intéresse.
Quand je vais à la réunion de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charla de receta, mis amigas me comentan.
Je viens partir à la chapelle et je demandais des femmes, je trouvais des femmes.
Je fais une réunion, je viens et c'est comme ça que je commençais avec eux. Mais j'ai trouvé des femmes. C'est moi qui viens. J'ai trouvé quatre femmes, moi cinq.
C'est international.
Oui, c'est international. C'est ça que pour les femmes qui n'ont pas d'argent, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de l'aide familiale, qui n'ont pas de maison, qui habitent à la rue. Et toutes les femmes, cinq, quatre.
Moi, c'est la troisième fois, mais moi, j'aime beaucoup, je suis contente avec les femmes.
Bien fait, avec l'amour. Avec l'amour, avec
moi, je comprends quand ils parlent les trois, mais c'est pas grave. Mais je...
Oui.
Ah, parce que vous parlez la même langue. Parce que vous parlez pas tout le temps la même langue.
Non.
C'est, oui, ça, c'est pas la même langue, oui, ça, c'est vrai. Parce qu'elle parle. Avant, bien compris français. Oui.
Je suis simple à la France, franchement, j'ai rien. Je travaille pas, je. Jamais je prends quelque chose, ni la cave, ni rien du tout. Oui, c'est compliqué un peu.
Et c'est ça qui a commencé.
Oui. Je suis celle qui est ici, j'ai jamais pris quelque chose de. Oui. Jamais. Oui. De l'argent ou quelque chose, non.
C'est toutes les personnes comme ça,
oui.
Tous les cinq femmes. Moi, je pense que ma groupe appelle Femmes Internationales parce que manger à la même chose, c'est international. Merci, allez, bonne soirée.
Merci.
Merci.
Brasera,
ça suffit.
Brasera, ça suffit.
Il y en a marre
ça
de Brasera.
Ça suffit, Brasera. Brasera, ça suffit.
Ça fait trois émissions, c'est bon.
C'est bon, Brasera.
Arrête.
Brasera, t'arrêtes maintenant.
Non, on veut Brasera, pas
Brasera,
tais-toi.
Brasera.
On finit par un extrait live de Zeta, rappeuse toulousaine qu'on adore.
Sarah,
Ce texte est des éclats, des bouts d'état qui crèvent quand j'écris mes états, mes mots et le sens de tout ça. Quand je rêve de vendetta, le cul posé sur un sofa, que je me relève et sans fin mon cœur qui bat. Dis-moi où elle débat. Dès le début, c'était foutu. Dis-moi quel est le combat. Quand même l'âme a disparu, déçu sans arrêt. C'est l'être humain, ce qui paraît. Si j'ai le cœur gelé, c'est que la confiance disparaît, constamment énervée. Caractère de fer, t'es-tu que rien ne peut satisfaire ou seulement réservé. Avec les nerfs à l'envers et des faiblesses que je préfère taire. Trop terre à terre, frère, entouré de queues, trop éphémère, sale goût amer. Et les surdoses de mes chimères, hypocrisie maladive, te demande pas pourquoi je vais skier. J'ai la peine expéditive à force d'étouffer mes cris, alors j'écris qu'aucun de mes mots ne ment, que pour les bons moments. J'ai rien d'autre que des remerciements, on remplace pas le manque. T'étais mon binôme, ma coutume, maintenant je suis comme une débutante qui a peur de dévoiler sa plume. Pourtant j'en ai noirci des lignes depuis que je suis gamine. J'attendais peut-être un signe pour donner un sens à mes rimes. Pourtant j'en ai noirci des lignes depuis que je suis gamine.
Cool up.
Alors voilà, Brazera, la saison 1.
C'est fini.
C'est fini?
Oh non! Qu'est-ce qu'on est ému quand même.
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Ben, je sais pas, c'était déjà trop bien d'être avec vous.
Ça va être le retour de Brazero?
Je crois,
c'est ça.
Tu es sûre?
Mais peut-être qu'on reviendra, on reviendra? Hein?
Ah bah ouais.
On revient?
Eh hey, Brazera, ça tue.
Ça, ça tue quoi?
Bah le patriarcat.
Allez.
Allez.
Casse à Sonia, Zaza et Camille.
À la coloc entière et dédicacée.
Allez, à bientôt, salut.
On vous aime.
Avec vous.
Salut, bisous.
Brazera, c'est les paillettes.
Allez.
Bisous.
Bisous, bras bisous.
Bras bisous.
Bras bisous, à bientôt.
Bras ciao, bras besitos.
Bras etc.
Bras love. Okay. Bra kiss, in English.
Bra feu de l'amour.
Bra, c'est très long la fin de Brazera.
Au revoir, Brazera.